J'arrive là, le monsieur en quatre roues, il me dit « Je peux vous aider? » Fait que j'ai besoin de jalapeno rouge. Il embarque avec moi, je vais te montrer ça. On s'en va dans le champ. Il me dit « J'ai un rang ici, j'ai un rang là, jusqu'au bout, un lac. » J'ai aucune idée c'est quoi un lac en date d'aujourd'hui même. Mais je trouvais que c'était loin. Puis là, je dis au monsieur « Parfait, je vous prends tout. » Il se revient vers moi, il me dit « Faut-tu être capable de me payer? »« Oh oui, monsieur, inquiétez-vous pas, voulez-vous un transfert? » Fait que là, il appelle ses fils, sa femme. Tout le monde arrive en quatre roues. Comme si j'étais un extraterrestre qui voulait acheter des jalapeños rouges. Mais moi, j'en avais besoin. Fait que notre relation d'affaires a commencé comme ça. Avec cette belle histoire-là, on a acheté, je me souviens plus c'était combien, c'était pas grand-chose, c'était 100 kilos de piment. 100 ou 200 kilos. Mais aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, c'est 150 tonnes qu'on a acheté à cette famille-là l'année passée.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 84e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réels qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Très souvent sur le podcast, on reçoit des entrepreneurs qui nous parlent des techniques numériques qu'ils ont utilisées afin de passer leur entreprise de croissance à hypercroissance. On n'a qu'à penser aux derniers entretiens avec Cookit, YouEat, Coco Village et d'autres entreprises qui ont utilisé des leviers numériques afin de vivre une croissance accélérée. Sans négliger cet aspect, mon invité du jour a testé une approche différente au départ pour faire connaître un produit qui, à ce jour, se vend dans plusieurs milliers de points de vente au Québec. Pierre-Olivier Drouin, président et cofondateur de l'entreprise Fireborns, est avec nous aujourd'hui afin de nous partager comment il a été capable de construire une entreprise qui va vendre plus de 1 million de produits dans l'année 2021. Sans plus attendre, ma discussion avec Pierre-Olivier Drouin. Pierre-Olivier Drouin, tu es président et cofondateur de l'entreprise Fireborns, une organisation qui crée et distribue ses propres sauces piquantes. Lancée il y a de ça bientôt 6 ans maintenant, l'entreprise vit une croissance fulgurante année après année en ayant vendu plus d'un million de produits en 2021. Pierre-Olivier Drouin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci et c'est un honneur de faire partie de ton podcast parce que je suis un très grand fan d'ailleurs.
Ben merci de me dire ça, Pierre-Olivier, c'est très gentil. Et Pierre-Olivier, ce qui me fascine beaucoup de ton entreprise, c'est le fait que vous soyez 100% intégré, donc vous créez vos sauces et vous les vendez ensuite. Peux-tu nous dire aujourd'hui un petit peu comment cette belle histoire-là a commencé, je crois, en 2015?
En 2015, c'est la rencontre de Frank et moi pour faire la genèse un petit peu de l'entreprise et de l'histoire. En 2013, j'ai décidé de partir. Je travaille dans une banque à la RBC comme banquier. Qui aurait cru ça? J'étais banquier. Et j'étais un peu tanné, c'était dans un cadre de travail, puis j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ce métier-là, mais ça fitait pas pour moi. Et je me suis trouvé un contrat de travail en Floride. Je suis parti 9 mois. Et c'est lors d'un match canadien dans un bar sportif de Fort Lauderdale que j'ai pigé une aile piquante par hasard. C'est par erreur plutôt, parce qu'il y avait deux bols d'aile, non épicée et épicée. Et moi, j'ai pris une aile épicée en croquant dedans. J'ai fait « Oh wow! » J'aimais pas manger épicé avant ça. Et c'est pas là que Fireburns est né, mais c'est là que mon goût de la sauce piquante a commencé. Et c'est à mon retour que j'ai rencontré mon ex-copine me présenter Frank. Frank travaillait déjà sur certaines recettes. Et moi, de mon bord, je trippais sauce piquante. Les deux ensemble, on a dit parfait. On fonde Fireburns et on amène ça à un autre niveau. Et un jour, nos sauces vont être partout sur la planète. C'est un peu, ça a commencé comme ça.
Puis je suis curieux, ton partenaire Frank et toi Pierre-Olivier, est-ce que vous avez des rôles distincts un petit peu au moment de la fondation de l'organisation? Et peut-être que même ça s'est prolongé aujourd'hui, les mêmes rôles que vous aviez à l'époque sont toujours ceux que vous faites présentement?
On avait vraiment une décision à prendre parce que lorsqu'on a fondé Fireburns, on ne l'a pas fait nécessairement pour faire de l'argent. Aussi drôle que ça puisse paraître, on avait vraiment un objectif, c'était de démocratiser le monde de la sauce piquante à l'époque et le rendre accessible à tous. Parce que en 2015, la sauce piquante, t'avais Tabasco, t'avais la sauce Sriracha avec le bouchon vert, la sauce Red Hot, mais de la sauce piquante québécoise, il n'y en avait pas nécessairement sur le marché. Et c'est là qu'on s'est dit, on va démocratiser ce monde-là. Alors, on a décidé d'y aller plutôt étape par étape. Au lieu de s'investir 100% les deux dans l'entreprise, Frank a décidé de garder son travail. Ben, on l'a pris une décision commune. Frank a décidé de garder son travail. Et moi, je me suis investi à 100% dans l'entreprise parce que prendre les deux, le risque était vraiment élevé pour garder une situation financière d'un bord ou de l'autre. Parce que partir dans un projet de sauce piquante en 2015, quand que c'était pas connu du tout, c'était quand même assez risqué. Donc, Frank a décidé de garder son travail. Moi, je me suis lancé à 100%. Et Frank travaillait autant la fin de semaine dans ses temps libres. Il venait m'aider pour amener l'entreprise à un autre niveau. Fait qu'aujourd'hui, Frank travaille à 100% dans l'entreprise, bien sûr, tout en gardant son rôle du département de marketing chez Firebarns.
OK. Puis, j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus parce que, bon, moi, je viens du monde de la publicité en ligne. J'œuvre davantage dans le volet web, les gens que je côtoie également. Donc, tout ce qui est création de produits, chaîne d'approvisionnement, distribution dans des points de vente, c'est pas nécessairement dans mon monde, mais ça me fascine beaucoup. Donc, je serais curieux que tu me dises un petit peu, du moment que tu as une idée comme Firebarns et que tu veux prendre ce projet-là et l'amener à un moment que tu es capable de distribuer, comment ça se déroule tout ça? C'est quoi les premières étapes? J'imagine que vous devez trouver des... Ben, au-delà du nom, du logo et tout ça, vous devez trouver des recettes. Qui les fait, les recettes? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est des gens dans votre entourage? Est-ce que vous trouvez des experts pour ça? Faut par la suite, puis on va en parler peut-être un petit peu plus tard, que vous trouviez vos ingrédients. Peux-tu nous dire là, comment que ça se crée une entreprise de sauce piquante, littéralement?
On va parler de 2015-2016 sauce piquante. Mais Antoine, je tiens à dire que dès 2016, on avait un plan 5 ans pour Firebarns parce qu'on ne voulait pas nécessairement seulement rester dans la sauce piquante. On avait un plan sur développer des différents départements à l'entreprise comme nous avons la sauce piquante. On a un département de sauce barbecue. On a un département de Bloody Caesar maintenant. Et cette année, on a lancé épices et condiments. Donc, pour venir dans la famille Firebarns. Mais on va revenir en 2015-2016. Effectivement, les recettes sont créées 100% avec Frank et moi. Mais en date d'aujourd'hui, toutes les recettes que vous voyez sur les tablettes, les nouveaux produits, sont créés par Frank et moi. Ça, c'est quelque chose qu'on décide de garder en interne ici, entre nous deux, justement pour cette essence-là d'entreprise que vous goûtez à la maison. Reste vraiment à la sauce Firebarns pour pas faire de jeu de mots.
Donc, ouais, c'est votre sauce secrète, là, littéralement.
Mais effectivement, tout est créé par nous. Donc, comment ça a commencé? On a embouteillé notre première caisse de sauce piquante et je me suis rendu avec Frank au IGA à côté de chez moi parce que je faisais mon épicerie au IGA Chauveau à l'époque dans la région dans le secteur de Bourgneuf à Québec. Et j'étais allé voir le gérant d'épicerie. J'ai dit, écoute, bonjour, je me présente PO, je vends des sauces avec ma grande confiance. Et il m'a vite ramené à l'ordre en me disant, viens ici, je vais te montrer mon layout de sauces. Il a dit, regarde, j'en ai pas de besoin de sauces. Fait que ça a été mon premier non. Je suis parti chez nous et j'ai décidé de retourner une deuxième journée consécutive. Parce que je me suis dit, non, c'est pas vrai, il a mal compris. Tu sais, il a mal compris, j'ai du mal à m'exprimer parce que j'y crois à mon projet. Je suis retourné une deuxième journée. Il m'a vu dans l'allée. Il a dit, hier, je t'ai dit non. Aujourd'hui, je vais te dire encore non. Fait, je retourne chez nous. Crème, c'est pas évident. Donc, j'ai essayé de retourner une troisième journée, Antoine. Et la troisième journée, quand il m'a vu dans le bout de l'allée, il m'a dit, j'en veux pas de ta de sauce. Ouais. J'ai pas voulu sacrer durant le podcast. Fait que là, j'ai compris qu'il y avait plus ou moins d'ouverture. Mais Antoine, j'ai dit, par chez nous, parce que je viens de la Beauce, mon grand-père et mon père m'ont toujours dit ne jamais lâcher le morceau.
Bien sûr.
Donc, un non, c'est toujours un futur oui. Tu sais juste pas c'est quand. Et là, j'ai décidé d'y retourner une quatrième journée consécutive. Et c'est là, quand il m'a vu avec ma caisse, il m'a dit, parfait, je vais t'apprendre ta caisse, mais il faut que tu viennes la vendre. Et durant le... Il me dit, tu vas venir en fin de semaine, tu vas faire une dégustation. À l'époque, on pouvait faire des dégustations, hein, dans le temps, avant le COVID. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Et je décide de... Je dis spontanément, je vais faire du tartare. Mais l'affaire, Antoine, c'est que je ne savais pas faire de tartare. En retournant chez moi, parce qu'à l'époque, quand tu commences une compagnie de sauce piquante, c'est pas évident. Tu mets tout le temps pour acheter ta matière première, tout ton argent est là, là, tu as des sauces à vendre, mais tu n'as pas de clients. Et je retourne chez nous. Et à l'époque, je m'étais fait couper Internet parce que j'étais plus capable de payer mon Internet. Donc, j'avais troqué une sauce piquante à mon voisin en haut pour avoir son Internet. Et durant les deux journées, je pense que c'était deux jours, je suis plus trop sûr, j'ai écouté des vidéos YouTube comment faire du tartare et j'avais un ami qui était chef, Charles, et je l'ai appelé, j'ai dit « Fabrice, tu me montres à faire du tartare ». En deux jours, il m'a montré à faire du tartare. Donc le samedi, je me suis rendu au IGA, tu sais, devant tout le monde, là, tu commences à cuisiner. Et là, tu as des petites madames là, qui sont autour, des messieurs, des madames, sont autour de toi puis veulent goûter. Mais toi, c'est la première fois que tu fais du tartare. Et là, tu dis « Caroline, qu'est-ce que ça va goûter ?» Donc, je rajoute quelques sauces de sauce piquante. Je brasse mon tartare. Je viens pour y goûter. Madame dit « J'aimerais ça être la première. » Imagine-toi, Antoine, j'ai jamais goûté du tartare fait par moi. Et une petite madame qui est une madame, plutôt, prend la cuillère, y goûte. Là, j'attendais, mon cœur avait arrêté parce que je me suis dit « Ça passe ou ça casse. » Il y avait comme 4-5 personnes. « Si c'est pas bon, ben, je vendrai pas de sauce. » Parce que les sauces Fireballs avec du tartare, c'est le parfait mix. Elle fait « Hum, c'est donc ben bon! » Fait que là, ça, OK, la pression tombe et c'est là que tout a commencé. Donc, je me suis mis à faire des dégustations de tartare la fin de semaine dans les GA. Donc, je me présentais, je vendais des sauces la semaine. La fin de semaine, je faisais des dégustations dans les GA pour faire connaître le produit à travers la province. Et Frank faisait la même chose aussi de son bord parce qu'on travaille toujours en équipe. Et l'aventure de Fireballs a commencé comme ça.
Oh wow! C'est tellement intéressant ce que tu me dis parce que de plus en plus, on discute avec avec des gens marketing, des entrepreneurs, puis des stratégies de pénétration, des stratégies de commercialisation. 9,9 fois sur 10, maintenant, ça passe en ligne. On va faire des campagnes sur les médias sociaux, on va faire des campagnes Google Ads, puis on va essayer de faire du chiffre. C'est intéressant que tu me dises que toi, tu es retourné à la bonne vieille école. On fait des dégustations, on présente notre produit en face à face et on essaye, j'imagine, de créer, premièrement, un bon moment avec la clientèle. Puis par la suite, ultimement, ce que ça crée, c'est du bouche à oreille. Donc, si la personne a été capable d'avoir une bonne expérience dans sa bouchée de tartare, les ventes s'en suivent, puis espérons qu'elle va pouvoir en parler avec sa famille le soir et ses amis. Et j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur cette stratégie-là parce que c'est plus long. C'est peut-être, ça prend peut-être plus de temps, mais j'imagine que toi, ça te permet d'avoir du feedback client en temps réel.
Instantané. Puis, c'est toujours le fun, lancer un produit sur le web avec un budget marketing, des campagnes web, parce qu'on est beaucoup e-commerce maintenant. Mais le feedback, tu l'as toujours de ton client. Donc, tu peux faire une vente instantanée via des campagnes, mais est-ce que ton client va racheter? Est-ce qu'il a aimé ton produit? Oui, il y a une façon toujours de faire de retargeter ton client pour lui pousser des recettes, etc. Mais le feedback, le client, tu l'as face à face. S'il l'a aimé, il va l'acheter. Puis c'est sûr que s'il l'achète, ben il va le racheter. Parce que s'il l'a aimé, il va le racheter. Donc, en faisant des dégustations, je trouve que c'est la meilleure façon pour faire découvrir et démocratiser un produit. Parce que le client, il va en parler à 7 personnes. Puis après ça, cette personne-là va en parler à 7 autres personnes. Et c'est l'arbre qui commence. Je vais dire, Antoine, si je peux me permettre, ça a été deux belles années. Mais oui, puis je continue d'en faire. On en continue d'en faire parce que maintenant, on a une belle équipe. Ça nous permet de se libérer des tâches pour pouvoir aller parler aux clients. C'est la meilleure chose à faire. Avoir un retour vers ton client, de savoir que, exemple, la bouteille, elle coule mal. Tu peux l'avoir en commentaire sur une campagne. Et quand tu as 5 clients qui te disent de suite, c'est que t'as un problème. Donc, ça te permet de toujours avoir un feedback complet parce que quand j'étais en Floride, j'étais un peu, tu sais, je connaissais personne là-bas puis mon anglais était très moyen. Puis j'avais écouté Undercover Boss. Et souvent, OK, puis je me suis dit, un jour, si je vais être en affaires, je vais me rappeler de tout ce que ces entrepreneurs-là, quand ils revenaient sur leur CA, pour Undercover Boss, c'était plus une émission qui les CEO des grosses entreprises aux États-Unis retournaient cachés, déguisés sur le plancher. Comme par exemple, ailleurs d'entrepôt. Puis c'est là qu'il y avait un feedback des employés. Et souvent, le problème est souvent dans la hiérarchie. Le problème ne monte pas jusqu'en haut. Et moi, je me suis toujours dit, je vais toujours revenir sur le plancher pour avoir le feedback des employés. Et sur le feedback des employés et aussi des clients. Parce que tu peux facilement te perdre dans ton entreprise en disant tellement que tu as de tâches de travail, t'es débordé, mais faire des événements, parler aux clients direct, c'est la meilleure chose à faire.
C'est définitif. C'est la même chose de parler aux clients que d'aller parler directement à ses employés. Tu le disais, d'être sur le plancher. À la fin de la journée, les plus grandes décisions doivent être prises sur de l'information qui se passe littéralement au niveau de la distribution de ton produit, de la distribution des tâches pour faire en sorte que le produit soit mis en application. Donc, c'est important de retourner au feedback. C'est pas vrai qu'un chef d'entreprise, pour prendre des grandes décisions, il reste dans son bureau à longueur de journée puis qu'il réfléchit tout seul. Pour bien réfléchir, tu as besoin d'informations. Donc, c'est important des fois de revenir à la base. On a parlé un petit peu de commercialisation, puis je trouve ça assez fascinant ce que tu nous as dit avec les différentes dégustations. 2 ans de temps que vous l'avez fait de manière assez toutes les fins de semaine. J'imagine bon que les choses ont dû changer dans la dernière année, on est d'accord. Mais j'aimerais revenir un petit peu au point que j'ai dit en début d'entretien. Vous contrôlez votre produit, c'est-à-dire que vous faites les recettes, vous le distribuez, vous le vendez en ligne, vous le distribuez également dans des points de vente. Mais également, j'ai cru comprendre, et tu me corrigeras si je me trompe, que maintenant, vous avez un partenaire direct, une ferme partenaire qui va s'occuper de cultiver littéralement tous vos piments que vous allez aller chercher, j'imagine, à une fréquence peut-être mensuelle. Parlons un petit peu de cette dynamique de travail-là avec un partenaire comme ça. Comment que ça se déroule? Est-ce que vous êtes capable d'avoir une exclusivité avec une ferme comme ça? Parce qu'à un certain point, à un moment donné, vous devez être, si vous voulez une exclusivité, vous devez être un gros joueur. Vous devez leur amener un bon chiffre d'affaires. Donc, à quoi que ça ressemble, cette dynamique de travail-là?
Juste avant, 1 an et demi avant la COVID, Frank et moi, on avait pris la décision d'être 100% intégré. Puis je suis content que tu amènes le sujet, que ce soit nos sauces piquantes, sauce barbecue, le ketchup, les épices. Tous nos produits sont embouteillés par nous ici à notre usine. Où ce que je suis actuellement, c'est notre nouvelle usine qu'on a investi 1,4 million l'année passée. Donc, 100% automatisé. On a pris la décision d'être 100% intégré. On a eu une rupture de stock. C'est drôle à dire. Une rupture de stock du jalapeno rouge pour faire notre triage. Parce que toute la fermentation est faite en usine ici en Barry. Donc, on n'était plus capable d'avoir de jalapeno rouge. Puis je me suis dit, c'est impossible qu'il n'y ait pas de jalapeno rouge disponible dans le monde en ce moment. Tous les importateurs disaient non, il n'y a rien disponible. J'ai pris mon auto, je me suis rendu dans une ferme, j'avais eu un contact en me disant, dans cette ferme-là, il y en a. C'est en septembre, il y a 3 ans environ. Et je me suis rendu là et j'étais arrivé dans la cour, le monsieur, tu sais, la typique famille parfaite de ferme. C'est les deux gars, la mère et le père. J'arrive là, le monsieur en quatre roues, il me dit « Je peux vous aider? » Fait que j'ai besoin de jalapeno rouge. Il dit « Embarque avec moi, je vais te montrer ça. » On s'en va dans le champ. Il me dit « J'ai un rang ici, j'ai un rang là, jusqu'au bout, un arc. » J'ai aucune idée c'est quoi un arc en date d'aujourd'hui même, Antoine. Mais je trouvais que c'était loin. Puis là, je dis au monsieur « Parfait, je vous prends tout. » Il s'en vient à moi, il me dit « Faut-tu être capable de me payer? »« Oui, monsieur, inquiétez-vous pas, voulez-vous un transfert? » Fait que là, il appelle ses fils, sa femme. Tout le monde arrive en quatre roues, comme si j'étais un extraterrestre qui voulait acheter des jalapeno rouges. Mais moi, j'en avais besoin. Fait que notre relation d'affaires a commencé comme ça. Avec cette belle histoire-là, on a acheté, je me souviens plus c'était combien, c'était pas grand-chose, c'était 100 kilos de piment. 100 ou 200 kilos. Mais aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, c'est 150 tonnes qu'on a acheté à cette famille-là l'année passée de piment pour faire notre production de piment fort. Puis oui, il y a eu le mouvement achat local durant la pandémie. Les Fireburns avaient déjà cette valeur-là d'être intégrés au Québec dès 2017. Et cette année, d'ailleurs, les récoltes s'en viennent. C'est dans un mois et demi exactement. J'ai eu des photos de la ferme justement en me disant, regarde les jalapenos, comment ils sont rendus. On suit l'évolution, on fait du contenu là-dessus. C'est vraiment trippant, là.
Ben oui, tu m'as montré des photos cette semaine, un petit peu de l'avancement. C'était intéressant de voir ça. Puis donc, si je reviens un petit peu à ma question initiale, de ce que je comprends, c'est que vous êtes leur seul client, là. Donc, c'est l'idée. Fireborns est sensiblement leur client qui leur amène tous leurs sous.
Pas nécessairement, parce que cette famille-là cultive beaucoup de... sont spécialisés dans la patate et eux, la madame a dit, le piment fort, c'est son dada. Donc, c'est pour le fun, pour eux autres. 150 tonnes, c'est énorme, là. Pour moi, c'est beaucoup. Cette année, c'est un petit peu plus. Mais pour eux, c'est tout petit parce que c'est une grosse ferme. Mais c'est vraiment avec des valeurs familiales. On aime vraiment travailler avec eux autres.
Puis, je suis curieux, est-ce que ça t'est venu en tête de peut-être littéralement leur faire une offre d'achat, d'aller contrôler de A à Z? Parce que là, tu fais ta production dans ton usine, comme tu nous as dit. Tu te fais approvisionner par une ferme qui t'a un partenariat avec eux, mais quand même, tu as une limite du contrôle de la qualité parce que c'est un partenaire, c'est pas toi qui contrôle tout. T'as-tu pensé peut-être m'amener pousser la réflexion plus loin puis d'aller faire l'acquisition de la ferme?
Absolument pas. J'aimerais ça un jour parce que un moment donné, moi, je suis parti à Montréal avec mon père puis je voyais un champ puis j'étais comme, j'aimerais ça un jour acheter le champ puis, tu sais. Mais ça prend tellement de l'expertise, Antoine, puis des équipements, c'est énorme. J'imagine. Déjà que bâtir une usine puis contrôler une usine d'embouteillage, c'est énormément d'énergie et de travail. Je préfère laisser ça à des gens spécialisés. Est-ce que si un jour la ferme est à vendre, j'y pense, je vais y penser? C'est sûr et certain. Mais oui. En ce moment, on a tellement un bon partenariat. Puis c'est bien que tu spécifies pour le contrôle qualité. On a un œil quand même là-dessus. Parce qu'il y a certains engrais qu'on veut pas avoir. Des engrais qu'on veut pas avoir sur nos piments, qu'on exige d'avoir des engrais plus naturels pour avoir des meilleurs produits. Alors oui, on a un contrôle sur la qualité. Et je dois y aller dans 2 semaines pour justement aller voir l'évolution des piments. C'est sûr qu'on a un contrôle. On garde un œil là-dessus.
T'as pas le choix, hein? T'as pas le choix parce que ça doit impacter par la suite énormément de mois de commercialisation. Parlant de commercialisation maintenant, donc si je me trompe pas, je pense qu'une bonne partie présentement de vos revenus sont faits au Québec. Vous avez commencé l'entreprise au Québec. Vous avez d'ailleurs été à l'émission Dans l'œil du dragon il y a quelques temps de ça. Donc, vous avez une belle présence locale, une belle présence provinciale. Qu'en est-il un petit peu du reste du Canada, des autres provinces ou également du sud de la frontière? Parce qu'à un certain point, vous avez un produit qui est québécois, certes, mais qui a un branding qui peut clairement se vendre à peu près partout. Est-ce que c'est dans les plans de mettre plus d'efforts pour commercialiser le produit en dehors de la province?
Absolument. Ça fait partie du plan. On a un plan bien précis, bien stratégique. On a déjà commencé en ligne à pénétrer le marché canadien. On vend quand même surprenamment. On est tout en train de changer notre site web pour l'amener. Parce que puisque tu travailles là-dedans, Antoine, tu sais que tu peux pas avoir le même site web au Québec et dans la version français ou version anglais. Il faut que tu aies un site web différent pour faire de la conversion. Alors, on est tout en train de... C'est plus mon partner Frank qui est en train de faire ce changement-là. Mais oui, on vend déjà beaucoup en Ontario, surprenamment. BC aussi, Alberta. Mais on a une chaîne qui nous vend en Ontario qui appartient à Sobeys, qui s'appelle Farm Boy. Nos produits sont tous disponibles. Donc, on commence tranquillement notre intégration avec quelques produits. On est en test. Puis je pense que le test passe très bien la cote jusqu'à maintenant. Donc, je serais pas surpris que dès 2022, on commence à pénétrer le marché canadien avec nos produits. Je suis en train de tout négocier ça en ce moment. En ligne. Vraiment, notre stratégie, c'est de se faire connaître en ligne.
Ben, c'est une excellente porte d'entrée. Puis j'aimerais en parler un petit peu de ça. Donc, je pense que c'était vers le 30e ou 40e épisode d'Hypercroissance, j'avais parlé avec quelqu'un que j'apprécie bien, qui s'appelle Philippe-Antoine Defoy, qui est propriétaire de toutes les succursales Popeye au Québec. Et on avait eu une bonne discussion, lui et moi, sur le modèle hybride, donc les ventes en ligne et les ventes un petit peu en briques et mortier. Donc, si je ne me trompe pas, vous, on le dit, vous vendez en ligne, mais vous avez également beaucoup de points de vente. Vous allez distribuer vos produits à plusieurs endroits au Québec. C'est quoi votre vision un petit peu par rapport à ça? Philippe-Antoine, à l'époque, m'avait dit que lui, il croyait vraiment à une vision où est-ce que le volet en ligne et le volet briques et mortier allaient rester ensemble très fortement. Il croyait que les ventes en ligne étaient importantes, mais qu'elle n'allait pas vivre seule, du moins pour son industrie à lui. Comment tu vois ça, toi, pour Firebarns? Est-ce que tu penses qu'à terme, vous allez uniquement vendre en ligne? Vous voulez continuer à faire de la distribution?
C'est une excellente question. Puis je pense que c'est même lui qui a mentionné que pour réussir, puis pour donner une survie à ton entreprise dans le futur, il faut que tu aies 60% de tes revenus qui sont à l'extérieur de ton château fort, qu'on pourrait dire le Québec, donc c'est ici qu'on est présentement. Donc, quand j'ai entendu ça dans le podcast, là, j'ai fait dans un CA, j'ai dit, écoute, faut prendre une stratégie, faut commencer à s'en aller à l'extérieur du Québec. Puis c'est là qu'on est en train, on commence déjà à penser à notre stratégie, qui est déjà pensée, mais qu'on va mettre en application plutôt. Effectivement, notre stratégie en ligne va toujours rester, mais la stratégie au détail va toujours rester aussi. je pense, une bonne combinaison des deux. Fait en sorte que c'est un mix parfait. Parce que c'est pas dans, tu peux pas retrouver tous les produits Fireburns dans les supermarchés. Donc, s'il y en a qui veulent certains produits, il y en a qui sont seulement exclusifs en ligne, mais il y a aussi des produits qui ne peuvent pas être dans les épiceries. Donc, c'est pour ça que notre e-commerce est vraiment fort, parce qu'en 2000, juste avant la COVID, on venait de merger vers Shopify. Avant, on avait une plateforme plutôt moyenne.
Différente.
Différente, exactement. On est allé vers Shopify, qui était vraiment la meilleure chose pour nous, parce qu'on vendait à peu près 10 000 par année, puis l'année passée, on a fait 600 000 en ligne. Donc, la donne a complètement changé. Puis c'est sûr qu'on s'est aperçu que, justement, en ayant des produits que les gens ont goûté soit dans les restaurants qui sont disponibles seulement dans des chaînes de resto, qui se retrouvent sur notre site web. Donc, les gens, en mettant ça sur notre site web, les gens se sont approvisionnés sur notre site web.
OK. Donc, je comprends. Donc, si je synthétise ça, tu crois que l'avenir est un mix un petit peu entre les ventes en ligne et vos différents points de vente. Donc, la vision de Fireburns ne va pas être qu'en ligne.
Pas du tout. Vraiment pas. Puis, parce que, veux pas, tu vas toujours à l'épicerie pour chercher des condiments que tu as besoin. C'est rare que tu vas acheter un ketchup en ligne. Quand tu as besoin, quand tu fais un achat spontané à l'épicerie, tu dis « Ah oui, c'est vrai, il manque, j'ai plus de Fireburns original. » Fait que tu vas l'acheter spontanément à l'épicerie. Donc, tu as différents types d'acheteurs. C'est pour ça que dans les supermarchés, la stratégie reste super importante en étant planographié. Quand on dit planographié, tu as toujours ton espace attitré à toi soit chez Metro ou chez IGA. Donc, et en ligne, vient pallier à ceux qui veulent avoir les produits qui ne se retrouvent pas dans les supermarchés.
Ben oui, il y avait Olivier Primo qui était venu nous parler de littéralement sa stratégie sur le podcast de Beach Day Every Day, que lui, tout le monde disait, ah, faut que tu investisses des gros montants marketing en ligne. Ben lui, sa meilleure stratégie, ça a été d'avoir une pancarte d'indépanneur. Donc, il dit, c'est comme ça qu'il a commencé à les vendre totalement ses produits, puis ça s'est quand même bien déroulé pour lui.
Mais on dira ce qu'on voudra. Moi, je connais bien Oli, puis sa stratégie est parfaite, là. T'sais, de la manière que, peu importe ce que tu diras sur Olivier, sa stratégie marketing, que ce soit par ses médias sociaux, il en vend dans BJ Everyday. Fait que t'en trouves partout, tu vois, chez Couche-Tard, t'en trouves. Tu sais, d'après moi, tu check en arrière en arrière de toi, puis tu retrouves une BJ Everyday. Il y en a vraiment partout. C'est ça, c'est parfait. Plus que t'as de points de vente, plus que de chances de vendre. Donc, nous autres, je pense qu'on est rendu à 1500 ou 1600 points de vente partout au Québec. J'aimerais mieux d'avoir 6000 comme lui, parce qu'il est distribué par la BAT, donc et voilà.
Bon, mais peut-être que s'il y a des gens de la BAT qui nous écoutent aujourd'hui, vous savez que Pierre-Olivier, il est à la recherche d'un partenariat avec vous, donc venez nous voir, venez parler avec lui. Pierre-Olivier, tu as parlé brièvement des restaurants. Donc là, on a la ligne d'affaires des ventes en ligne, on a la ligne d'affaires des points de vente, des épiceries. Est-ce que c'est comment se déroulent les lignes d'affaires avec des commerces directement, des restaurants? Est-ce qu'eux-mêmes vont s'approvisionner dans des épiceries ou est-ce que vous allez développer une relation directement avec certains restaurants pour qu'eux soient capables peut-être de s'approvisionner à même vous le sans aller dans différentes épiceries?
Ce qui est le fun, la restauration nous a vraiment aidé à nous faire connaître parce qu'on a des beaux partenariats avec des chaînes de restaurants, que ce soit des chaînes ou des restaurants uniques. Ça, c'est un peu mon dada, j'adore la restauration. On a développé, Frank et moi, au fil des années, au début, une chaîne, un restaurant, ensuite deux, trois, quatre, pour amener les sauces aux tables pour les tartares, justement. Donc, ça nous a fait connaître, dans un sens, et dans l'autre, ça nous a créé un peu de volume qui ont été la chance d'être distribués par Garden Food, qui est une compagnie cotée à la bourse. Bien sûr, aussi, mais des distributeurs comme Viandex à Québec, Colabor, Cisco. Donc, c'est tous des distributeurs alimentaires qui font affaire avec des restaurants, qui ont accès à nos produits maintenant. Au lieu d'avoir, pour ne pas dire Tabasco, ben utilisent nos produits pour soit dans la cuisine ou tout simplement sur les tables comme condiments.
C'est intéressant, ça. Donc, en gros, de ce que je comprends bien, tu as des partenariats directs avec ces différentes chaînes-là.
Totalement. Puis durant la pandémie, malheureusement, ben tu sais, on a perdu. Avant la pandémie, ça représentait environ 25 à 30% de notre chiffre d'affaires. Donc, quand M. Legault a arrêté de Québec, ben à cause des mesures sanitaires, ben on a perdu 30% de notre chiffre d'affaires à l'époque. Donc, il a fallu qu'on se réveille sur une dizaine et on est allé vers le commerce en ligne. Mais là, en ce moment, dernièrement, les activités ont repris et j'ai recommencé à faire de la route parce que oui, on a des vendeurs on a des représentants pour les supermarchés, mais j'ai décidé de garder ce volet-là, restauration, pour justement recommencer à... Parce que les mesures sanitaires, je pense qu'il faut qu'ils nettoient les bouteilles. Donc, c'est beaucoup de travail pour les restaurateurs, mais tranquillement, pas vite, ça va revenir. J'ai très hâte de retourner sur la route pour justement reprendre cette portion-là de notre chiffre d'affaires qu'on avait perdu.
Ben, j'imagine, c'est une très, très belle ligne d'affaires de l'avoir comme ça. C'est également un certain placement marketing, hein, aux gens qui, bon, on l'espère, vont retourner dans les restaurants. On est capable de voir la sauce un petit peu partout. C'est une bonne chose. Puis, j'aimerais que tu nous dises, Pierre-Olivier, comment tu vois l'évolution de ton entreprise au cours des prochaines années? Donc là, aujourd'hui, on a parlé commercialisation, on a parlé d'implantation dans différentes provinces, peut-être également éventuellement au sud de la frontière. Mais comment tu crois que cette entreprise-là peut passer à un autre niveau? Parce que vous œuvrez dans un secteur qui est excessivement concurrentiel. Le secteur de l'alimentaire est pas facile, les marges sont limitées et souvent les joueurs qui vont pouvoir être certains de tes compétiteurs, ils ont les poches pleines. Donc, ça devient, il faut, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est un peu un David contre Goliath ici. Donc, comment on peut planifier une bonne stratégie long terme pour une entreprise comme la tienne? Puis c'est quoi un petit peu vos objectifs pour la suite?
L'objectif d'avoir bâti notre propre usine puis faire nos produits depuis le jour 1, ça a toujours été d'offrir un produit de qualité supérieure à un prix accessible. Donc, les deux concepts que j'ai obtenus de mes cours économie à l'Université Laval, c'est le coût d'opportunité et l'élasticité du prix. Donc, jusqu'où le client est prêt à payer pour acheter ton produit. Donc, nous, c'est tout le temps fait une stratégie. Notre compétiteur que les gens achètent au quotidien, il est à tel prix. Comment nous autres, on est capable d'aller se positionner proche en offrant un produit de qualité supérieure? Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de contrôler notre production. Donc, tu as accès à des produits, tu es capable de négocier directement avec du volume. On fait affaire directement avec les manufacturiers. Avant, on passait beaucoup par des distributeurs. Maintenant, on fait affaire directement avec les manufacturiers. Donc, ça nous permet d'avoir des meilleurs prix tout en offrant un produit de qualité supérieure. Donc, nos compétiteurs québécois, il y en a énormément dans la sauce barbecue, dans la sauce piquante. Qu'est-ce qui nous différencie puis pourquoi qu'on vend moins cher que nos compétiteurs? C'est justement ça. On fait notre produit.
Mm-hmm.
Question, parce que j'ai pas répondu encore à ta question. J'ai l'impression que je réponds jamais à tes questions parce que je suis pas dans mes pensées. Mais c'est justement ça. En ayant un prix compétitif, va nous permettre de pénétrer des certains marchés. Parce qu'offrir une sauce barbecue, exemple, à 8,99, 9,99, c'est vraiment tu restes un peu ton client qui peut acheter ton produit. Donc, en ayant une stratégie de prix plus agressif, parce je tiens à le dire, on fait notre produit, puis quand tu fais ton produit, tu contrôles tes coûts.
Bien sûr.
Tu contrôles, tu fais pas faire ton produit par quelqu'un d'autre. Donc, ça va nous permettre tout le temps de se positionner proche de nos compétiteurs qui sont plus gros, qui vont nous permettre de développer d'autres marchés.
OK, donc on veut ouvrir d'autres lignes de marché, d'autres lignes de produits dans les prochaines années pour avoir peut-être une empreinte un petit peu plus globale.
Exactement, mais c'est pour ça que cette année, on a sorti des condiments comme ketchup, mayo et moutarde. Donc, pour justement que ces exemples, il y en a qui n'aiment pas la sauce piquante, ils n'aiment pas la sauce barbecue, mais maintenant, on a des condiments. Donc, dans la famille Fireburn, tu es capable d'avoir, on a une famille grande de produits. Donc, tu es capable de te retrouver à quelque part dans nos produits.
Intéressant. Je terminerai, Pierre-Olivier, sur mes questions favorites, les questions personnelles.
Déjà terminé, il me semble.
Ben non, attends, là, c'est le début du podcast, je te pose des questions personnelles maintenant. Là. C'est ça que les gens veulent savoir. Là. Bon, on essaie toujours de s'éduquer, d'avoir le maximum d'informations possibles pour prendre des bonnes décisions d'affaires. On peut s'éduquer de plein de manières. Moi, j'aime m'éduquer par la lecture. Es-tu un amateur de lecture d'affaires?
Pas tant. Parce que, à force d'écouter ton podcast, parce que je tiens à dire aux gens, j'en ai écouté 67 jusqu'à maintenant. C'est extraordinaire. Tu apprends tellement de belles choses. Dans ton podcast, j'ai appris énormément de concepts que j'ai même appliqués dans mon entreprise. Donc, qui va super bien. Donc, j'ai commencé à lire un petit peu parce que tu poses souvent cette question-là, puis je me suis dit, mais je devrais commencer à lire. J'ai commencé à lire sur le livre du fondateur de Nike, qui est extrêmement intéressant.
Shoe Dog.
Ouais, Shoe Dog, exactement. Le film, pas le film, mais le livre « Comment te faire des amis », comment influencer tes amis, qui est super bon aussi. Mais je suis plus un fan de podcast, dont le tien, Antoine.
Ben, c'est gentil. Donc, je suis content de voir que tu es un fan de hypercroissance, parce que c'est ça l'objectif un petit peu, c'est de prendre les informations d'entrepreneurs québécois dans la francophonie, d'avoir une belle discussion et de partager ça avec d'autres entrepreneurs qui ont envie d'en apprendre un petit peu plus. Donc, je suis content de voir que tu es un invité et que tu es également un auditeur.
Oui, vraiment. Je tondais ma pelouse tantôt et j'écoutais un épisode de ton podcast. C'est drôle parce que j'ai commencé à partir de 80, aux alentours 75. Là, je descendais. Donc, c'était drôle de voir que j'ai commencé, tu places 2 millions de publicités. Puis là, plus que je m'en vais vers en bas, vers la 30e, t'es rendu à 1 million de publicités. Ouais. Moi, ben, je vois l'évolution, mais à l'envers.
Ah, exactement. Ça aurait été un petit peu dommage que je dise au départ, on gère 4, puis à la fin, on dise qu'on gère 2.
Ah oui, non, mais c'est... Absolument, tu commences à l'inverse. Tu commences au début, mais j'ai commencé... mais tu sais, dans tes podcasts, c'est le fun d'entendre plein d'histoires, des erreurs, puis... Il y a tellement de beaux messages à entendre, puis j'encourage les entrepreneurs à écouter des podcasts, dont Martin Latulippe, j'en veux pas encore de ce podcast-là. Là. Je pourrais l'écouter 3-4 fois, je ne m'attendrai pas.
Ah, Martin, Martin, il a ce don de pouvoir éveiller un mindset. Il est capable de te faire voir les choses un petit peu différemment, de te faire penser un petit peu différemment. Puis, il y a un charisme assez incroyable là, quand il s'exprime. Puis, je me rappelle quand je l'avais eu sur le podcast, on discutait ensemble. Puis, à l'intérieur de ce podcast-là, que j'invite d'ailleurs les gens à aller écouter, je pense que c'est l'épisode 30 ou l'épisode 29, il nous parle de son mastermind. Il nous parle de son mastermind. Puis, à la fin du podcast, je dis à Martin, moi, tu me l'as pas mal vendu, ton mastermind, aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Parce que j'écoutais, puis j'étais comme, oh là là, OK, là, c'est pour moi, ça, ce mastermind-là. Puis je reviens également à cette discussion-là, les partenariats stratégiques dans la manière qu'ils fonctionnent, de bâtir des relations sans absolument rien avoir espéré en retour. Puis 2-3 ans plus tard, ça lui revient. Il est capable de faire des gros stages. Il y a des très belles leçons là, à écouter de Martin.
Chaque podcast... Il y a une belle ressort à retenir de chaque entrepreneur. Puis c'est ça que j'ai. Puis je le marque aussi sur une feuille, qu'est-ce que je retiens du podcast. Puis il y a vraiment quelque chose à retenir de chaque entrepreneur. Parce que tout le monde vit à sa façon ses épreuves à la dure. Puis comment il a surmonté chaque épreuve durant leur entreprise. Et tu prends ça, tu gobes ça, tu dis OK, moi aussi, m'est arrivé ça. Puis comment je pourrais faire, moi aussi, pour m'améliorer. C'est tout le temps un objectif de t'améliorer comme entrepreneur. Je trouve ça. Fascinant, comme tu aimes bien dire. Ton podcast est fascinant.
Effectivement, j'utilise ce terme-là. Donc, je te pose la question dans ce cas-là. Dans l'hypercroissance, c'était quoi ton top 3 de tes meilleurs épisodes?
Martin Latulippe.
Oui.
Le fondateur de Lolé.
Oui. Oui, oui. Ferrandez.
Et je te dirais Marc-André Campagna. Puis, tu sais, je le connais bien, Marc-André. Puis, j'en venais pas de voir son entreprise rendue à ce niveau-là. J'ai écrit pour le féliciter, mais c'était vraiment mon top 3.
Intéressant. Ah oui, quand j'y repense un peu, Jean-Pierre Ferrandez, quel storyteller. Lui, je pense que je faisais l'entretien avec lui, je lui ai posé 2 questions, puis ça a fait un podcast de 1 heure. Donc lui, quand tu lui poses une question, il est parti, puis Marc-André, pour en revenir, c'est assez exceptionnel d'être à Y Combinator, d'être entouré de gens qui ont fondé des organisations de la taille de Airbnb, de Dropbox, de DoorDash. C'est des entreprises monstres entre parenthèses, coaché, mentoré par ces gens-là pendant quoi 2 mois. C'est exceptionnel. Là. Tu ressors de là, puis je veux dire, tu vois juste les choses différemment. C'est des gens qui ont construit des entreprises de classe mondiale qui sont dans notre day-to-day continuellement. Là.
Incroyable, j'écoutais, puis j'en revenais pas de qu'il y ait cette chance-là, puis cette opportunité. Parce qu'on crée nos chances. C'est pas vrai là, qu'on est chanceux. On crée nos opportunités comme entrepreneur. Et il y a eu cette opportunité-là d'aller là-bas, d'être sélectionné. Puis moi, ça me, tu vois, de ce podcast-là, j'ai dit à mon partner Frank, parce qu'il travaille beaucoup en e-commerce, puis il se spécialise là-dedans, pourquoi tu irais pas faire, je sais pas comment on appelle ça, là, mais un bootcamp, genre de d'e-commerce comme ça. Tu t'en ailles à l'extérieur. Donc, sais, tranquillement, pas vite, il s'en va vers là. Donc, on va regarder pour pouvoir qu'il y a de, tu sais, créer surtout des partenariats, des relations d'affaires et s'améliorer.
Intéressant. Puis, bon, j'ai cru comprendre que tu as changé un petit peu tes habitudes de vie pour le mieux, pour le mieux. Donc, je termine avec ma question, une de mes questions favorites. À quoi ressemble la routine de Pierre-Olivier Drouin quand il travaille avant, pendant et après?
Premièrement, 4 heures le matin, à tous les matins, ça c'est important. Mon déjeuner, super important. 5 heures, j'arrive au bureau. Ce que je constate de 5 à 8, c'est le moment où je le suis plus performant. Parce qu'à 8 heures, quand tout le monde est là, ben c'est un peu le brouhaha parce qu'on est, quand on a, avant la COVID, on était 6 employés et maintenant on est rendu 20. Fait que en peu de temps, il a fallu mettre une structure. Donc,
bien sûr.
De 5 heures à 8 heures, je trouve que c'est vraiment là où que je suis capable de faire mon travail et de remplir mes obligations. Comme tu disais, j'ai changé un peu ma routine parce que quand tu bâtis une entreprise en hyper-croissance, ben, tu pourrais travailler tout le temps, 7 jours bien semaine, 102, 125 heures semaine. Mais à un moment donné, il faut que tu t'occupes de toi. Puis à un moment donné, avant les fêtes, j'ai eu comme un éveil personnel. Et il a fallu que je m'occupe un petit peu de moi pour pas rentrer dans le mur. Donc, j'ai changé complètement mes habitudes. Je me suis mis à m'entraîner, à courir. Je cours énormément, 2 fois semaine. Je m'entraîne énormément aussi, ce qui m'a permis de perdre 35 livres et être en top shape pour être performant, surtout pour mon entreprise. Parce que je vois complètement la différence avant les fêtes et aujourd'hui au travail, comment tu es plus éveillé. Puis, souvent, parce que je suis bien entouré de mentors, quand tu t'occupes de toi comme entrepreneur, t'es plus performant pour ton entreprise.
Bien dans sa peau, bien dans sa tête. Ça, c'est sûr et certain. C'est intéressant ce que tu dis. Tu commences très tôt. Je suis un fan de travailler tôt également. C'est impressionnant comment que tu peux accomplir des choses quand il y a t'as pas tellement de gens qui te dérangent, donc c'est là souvent qu'on peut avoir le plus de choses accomplies là.
Parce que je me suis toujours dit, si t'es toujours 3 heures en avant de tout le monde, parce qu'avant, je commençais toujours avant, puis je finissais 7 heures le soir. Puis je me disais tout le temps, t'as toujours 6 heures par jour, PO, que t'es en avant sur tout le monde. Donc, si t'additionnes 6 heures fois 6 jours, par exemple, ça fait 36 heures par semaine, que t'es en avance parce que tu travailles, tu développes, t'es attitré à ton entreprise. Donc, ça te permet d'avoir une longueur d'avance toujours. Fait que c'est un peu dans ce mindset-là que j'ai tout le temps eu depuis 5 ans. De commencer tôt puis de finir un petit peu plus tard.
Très belle vision. Félicitations pour cette routine, cette discipline-là, quasiment militaire, que je partage également. J'adore être très tôt le matin, très aligné. Je pense que c'est une très belle façon de fonctionner et d'être productif. Donc, je conseille cette routine aux gens qui nous écoutent. Et Pierre-Olivier, si les gens veulent en apprendre un petit peu plus sur Fireborns ou même peut-être entrer en discussion avec toi, meilleur endroit?
Fireborns.com, là-dessus, on a tous nos produits. Mon partner Frank met une recette par semaine de plats à cuisiner à la maison. Donc, une fois par semaine, il y a vraiment, je pense qu'il y a une affaire comme 200 recettes sur notre site web. Pour me rejoindre sur mon Instagram, PODROIN1, ou sur Facebook, je réponds vraiment à tout le monde. Des fois, c'est pas toujours à l'instant même, mais je réponds vraiment à tout le monde.
Bon, ben merveilleux. Pierre-Olivier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été très intéressant d'en apprendre plus sur l'évolution de ton organisation, hein, littéralement de passer d'une idée à... Je prends mon idée, je la mets en marche, je trouve des partenariats, je conçois mon produit de A à Z, je le distribue de plusieurs manières possibles avec certaines lignes de distribution. Donc, très fascinant tout ça. Merci beaucoup de ton temps.
Et je tiens à dire, Antoine, je tiens à dire, en aucun moment, j'ai mis Frank ou moi, je peux parler pour lui, là, on a douté que ça fonctionnerait pas. Je pense que c'est ça que chaque entrepreneur devrait avoir, ne jamais douter de son projet. C'est sûr qu'il peut avoir des hauts et des bas, puis ça peut faire des montagnes russes, des rondes de financement qui arrivent pas, que manque de cash flow, parce que nous autres, ça a été une histoire d'horreur, le cash flow, c'est toujours ça, le nerf de la guerre pour nous. Mais jamais, jamais, en aucun moment, on a douté de ce projet-là, parce que, veux pas, c'est le meilleur produit au monde.
Bon, ben, on va inviter les gens à aller le tester assez rapidement. Vous avez vendu pour 1 million de produits différents dans la dernière année. C'est exceptionnel, tout ça. Donc, soyez un de ses clients dans les prochaines semaines. Je pense que ça va pouvoir...
disponible dans tous les métros de la grande, la province de Québec, dans les IGA, aussi dans tous les IGA de la province, des différentes boucheries, poissonneries. On est vraiment bien distribué.
Bon, ben c'est merveilleux. Pierre-Olivier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que comme Pierre-Olivier, vous continuez à aimer les épisodes qu'on sort à chaque lundi matin. On a beaucoup de plaisir à faire ce contenu semaine après semaine et de plus en plus, on reçoit de vos commentaires par rapport au podcast. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un que vous aimeriez avoir sur le balado, n'hésitez pas à me contacter. Mon courriel est d'ailleurs dans les notes de l'épisode. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.